Bienvenue dans Art Interview sur Art District, l'émission qui donne la parole aux acteurs du monde culturel et qui met en lumière des initiatives liées au monde de l'art et de la culture.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Art Interview, animée aujourd'hui par Jeanne Béran. Alors je me trouve aujourd'hui porte d'Auteuil, au cœur du stade de Roland-Garros, et plus précisément dans le musée de Roland-Garros, alors que le tournoi bat son plein jusqu'au dimanche 11 juin. Je suis avec Mickaël Guittard, responsable patrimoine de marque de la Fédération française de tennis, également responsable des collections du musée, pour parler des liens qui existent entre l'art, la culture et le tennis. Alors bonjour Mickaël Guittard, et merci de nous recevoir ici pour cette interview.
Bonjour, vous êtes les bienvenus.
Merci. Alors il est vrai que quand on pense tennis, on ne pense pas forcément art ou culture, mais finalement c'est une erreur car il existe de forts liens, et en particulier entre Roland-Garros et l'art, comme nous allons le découvrir tout au long de cette interview avec vous, Mickaël Guittard. Alors pour commencer, je voulais parler un petit peu des affiches de Roland-Garros. Finalement, c'est la manifestation la plus visible de ce lien entre l'art et le tennis. Alors peut-être pouvez-vous nous parler un petit peu de l'affiche de cette année et puis plus tard des affiches précédentes.
Oui, alors tout à fait, les liens entre l'art contemporain et Paris sont multiples, avec Roland-Garros bien sûr. Roland-Garros, c'est le seul événement sportif annuel à s'appuyer sur de l'art contemporain pour faire sa communication, hein, son affiche. Depuis 1980, donc Roland-Garros, via la Galerie Lelong, une célèbre galerie internationale, on contacte un grand nom de l'art contemporain qui a quelques mois pour nous proposer son inspiration de Roland-Garros, le stade, le tournoi, enfin les sons parfois aussi, de tout ce qui fait Roland-Garros au final. Cet artiste nous propose quelques œuvres et la fédération en retient une. Là où ça est intéressant en particulier, c'est que l'artiste a carte blanche. L'artiste est totalement libre de créer une œuvre qui lui ressemble, qui est dans la continuité de son univers artistique. Et c'est ce qui fait qu'au final, à Roland-Garros, on a une grande diversité depuis 1980, donc d'originaux, avec parmi lesquels on a du Miro, on a Leschinski, Plenza, que des grands noms. Et c'est ce qui fait que la collection du musée de Roland-Garros est unique aussi. Alors, l'artiste de cette année, Vic Muniz, est un Brésilien qui a une particularité, c'est qu'à l'origine, c'est un sculpteur. Il aime travailler la matière. Et puis, petit à petit, il s'est mis à photographier ses œuvres et il s'est rendu compte tout simplement que le résultat, le rendu de la photo, était plus proche de ce qu'il voulait créer que la matière qu'il avait sculptée. Donc, petit à petit, il a commencé à créer des œuvres pour les photographier uniquement. La photographie devient l'original et petit à petit, le travail original disparaît. Avec l'œuvre de cette année, on est en plein dans cet exercice-là puisqu'il nous représente l'ombre d'un joueur au service sur la terre battue, que l'original, hein, la matière, la terre battue, le sable qu'il a travaillé à l'origine, représente une toute petite surface qu'il a donc photographiée. On a l'original qui est la photo et derrière, l'original, la matière, a disparu. L'original, aujourd'hui, c'est une photo, ce n'est plus la matière.
Ce qui la rend encore plus unique par rapport
exactement,
aux affiches.
Exactement. L'original n'existe plus, donc c'est embêtant pour un musée tout de même. L'original est une photo. Maintenant, c'est une autre forme de création. Là où ça devient intéressant, c'est que Vic Muniz lui-même dit que lorsque deux joueurs s'affrontent à Roland-Garros, par exemple sur le central, ils marquent la terre avec des glissades, avec les empreintes de pas, la balle, et que tout ça représente une œuvre d'art à part entière. Une œuvre d'art qui va disparaître lorsque les équipes des entretiens des cours vont passer le filet partout sur le court. On est dans cette logique. On crée une œuvre.
C'est vraiment une association du tennis et de l'art, encore une fois.
Tout à fait. Oui. Une œuvre qui va disparaître. Donc voilà, ça c'est une particularité qui fait que cette œuvre-là est unique.
Et vous nous avez parlé donc, du fait qu'ils ont carte blanche. Alors, quel est le processus précis, peut-être, d'association entre ces artistes contemporains et la FFT? Est-ce qu'ils sont prévenus longtemps à l'avance? Comment ça se passe concrètement?
Généralement, vers septembre, on parle avec la Galerie Lelong et on lui demande un style, parfois une nationalité, qui permet de toucher aussi un autre marché pour Roland-Garros, hein, parce qu'il y a aussi du marketing derrière tout ça. Et donc... la galerie va nous proposer deux, trois artistes. On va en retenir un en fonction d'un trait, en fonction d'une couleur. On veut une année plus abstraite ou quelque chose de beaucoup plus figuratif. Donc en fonction d'une volonté, on va retenir l'artiste qui, à partir de là, reçoit la commande de Roland-Garros et va nous livrer au bout de 2-3 mois une œuvre, enfin plusieurs œuvres en proposition. Et là encore, carte blanche, la fédération n'intervient pas.
Donc pas de veto.
Non. On peut intervenir, par exemple, en 1981, l'artiste avait écrit Roland avec deux L. Donc là, bien sûr, on n'a pas pu retenir cette œuvre-là.
Finalement, ce n'était pas une question artistique, c'était plus une question rapport vraiment au respect de Roland-Garros.
Tout à fait. À aucun moment, la Fédé n'intervient pour dire, voilà, là, l'artiste a fait une balle rouge, on veut qu'elle soit jaune. Non, ça reste là, la création de l'artiste. On peut refuser une œuvre aussi si on estime qu'il y a atteinte à l'image du tournoi ou à l'image de l'éthique sportive. Voilà, là, on peut refuser une œuvre, ce n'est pas encore arrivé.
Heureusement,
oui.
Et alors, quelles sont les affiches qui ont particulièrement marqué les esprits et pourquoi dans ce cas-là?
Alors, il y a l'affiche de 2005 de Yomé Plenza qui est... ma préférée au final, j'adore parler de cette affiche parce que le tournoi 2005 a été compliqué pour nous au musée puisqu'il a fallu expliquer, raconter ce qu'était cette affiche. Lorsque Plenza nous livre cette affiche, elle est toute sombre, elle est noire, elle est avec un peu de gris, les lettres en blanc comme ça. Bref, pas Roland-Garros, pas les couleurs du printemps, pas le côté festif, le jeu de Roland-Garros. Donc oui, la première impression est très mauvaise. On a eu ici, en présentant l'original, des remarques du type « c'est une pierre tombale, c'est un univers carcéral ». Bref, une image très négative. Mais au final, cette œuvre évoque quelque chose d'unique dans les collections, puisque Yomé Plenza, par cette œuvre qui est saturée de mots, il n'y a pas un espace libre, on dit que l'œuvre est bruyante. Yomé Plenza nous raconte les sons de Roland-Garros. La clameur du public, les 15 000 spectateurs du central qui applaudissent, qui crient. Et d'un seul coup, le silence, lorsque le joueur va servir et qu'on a juste le bruit de la balle sur la terre battue. Voilà ce que Yomé Plenza, dans son œuvre de 2005, nous raconte. Et cette œuvre-là, elle est unique pour cette histoire que l'artiste a voulu nous raconter. Alors, elle a cartonné cette affiche parce que, tout simplement, elle a été très critiquée, très vivement critiquée.
Un bad buzz, comme on dit.
Complètement. Sur les réseaux sociaux, de toute façon, c'est toujours ceux qui n'aiment pas qui se manifestent en premier. Et puis, petit à petit, avec des explications, on a senti que certains aimaient et qu'ils venaient même la défendre sur les réseaux sociaux. Donc, et c'est ça au final qui est le plus important, c'est que cette affiche, elle a fait parler. Or, cette affiche, c'est avant tout un support de communication. On a l'original, certes, mais l'affiche devient un support de communication. Donc, l'idéal, c'est qu'on en parle. Et en 2005, on en a beaucoup parlé. Donc, c'était une très grande année, oui.
Et dans ce que vous dites, j'ai l'impression que vraiment, les artistes utilisent vraiment Roland-Garros. Vous parlez des sons, des couleurs pour leurs affiches. Donc, il y a vraiment un véritable lien qui est créé et qui est très intéressant.
Totalement. Je me souviens de David Nash qui a fait une affiche pour nous. Lorsqu'il est venu à Roland-Garros pour la première fois, il a plongé sa main dans la terre battue, dans un amas de terre battue. Et sur un morceau de papier, il a commencé à dessiner... Un truc qui pour nous paraissait très abstrait. Et au final, l'œuvre qu'il va créer pour Roland, même s'il n'a pas pu finaliser avec la terre battue, ressemblait énormément à son premier jet, à sa première impression, la matière de Roland-Garros. Ça, c'était un bon moment aussi.
Alors, j'allais vous demander votre affiche favorite, mais vous avez déjà répondu.
2005, oui.
Il y en aurait une autre dont vous pourriez parler, peut-être ?
Oui, bien sûr. En fait, c'est ça aussi qui est magique, c'est que depuis 1980, chaque affiche porte une petite histoire. Et en ça, c'est assez incroyable. Je pense à l'affiche de 1981 qui est assez connue, puisqu'on y voit un joueur blond, cheveux longs, avec un bandeau de dos. Donc tout le monde, tous les connaisseurs vont reconnaître Borg, bien sûr. Et là où ça devient magique, c'est qu'en 1981, Borg gagne Roland-Garros et quelques mois après va annoncer qu'il met fin à sa carrière de joueur. Et là où ça devient magique, cette œuvre, c'est que l'artiste nous représente le joueur qui tourne le dos au monde du tennis. À partir de là, on est parti sur une histoire fabuleuse d'un artiste visionnaire, exactement. Ouais. Voilà, et c'est ça, chaque affiche de Roland a sa petite histoire comme ça. Je pourrais vous raconter l'affiche de Johan Miro en 1991. Là aussi, elle est unique, cette affiche, puisque Johan Miro, la fédération l'approche en 1981, pour qu'il fasse une affiche pour Roland, et Johan Miro refuse. Il dit non, moi je ne suis pas très tennis, je suis plutôt foot. D'ailleurs, il va faire beaucoup d'affiches pour le foot. l'aventure ça aurait pu s'arrêter là. Et puis, en 1983, Joan Miró décède. En 1991, quelques années plus tard, Roland Garros fête le centenaire du tournoi. Donc là, on veut marquer les esprits, notamment avec l'affiche. Donc, on va voir les ayants droit de Joan Miró pour qu'on ait une œuvre Miró pour affiche de Roland. Et là, comme en 10 ans, le tennis s'est largement popularisé, Roland Garros avec, les ayants droit acceptent. Et ils nous donnent, ils nous offrent, ils nous proposent une œuvre de Miró qui représente comme un grand mouvement de raquette avec un grand cercle jaune. Tout le monde imagine. Voilà, Roland Garros 1991, on a cette forme qui frappe une balle. C'est parfait pour une affiche de Roland Garros. Or, Joan Miró n'était pas fan de tennis. Et cette affiche, en fait, elle est tirée d'une série qui s'appelle Le Chanteur des Rues. Et ce qu'on voit sur cette affiche, ce n'est pas du tout un joueur de tennis, mais un joueur de contrebasse. Donc cette affiche, qui est une affiche Roland Garros aujourd'hui, parce qu'on a écrit Roland Garros dessus, elle trouverait tout à fait sa place au Musée de la Musique, en vérité. Donc voilà, c'est ça aussi l'art contemporain. C'est une œuvre d'art qu'on interprète en fonction d'un lieu, en fonction d'une impression générale. Et là, on était au cœur vraiment de ce qu'est l'art contemporain.
D'accord, c'est très intéressant.
Oui.
Et maintenant, j'aimerais aborder un peu plus le sujet du musée de Roland-Garros.
Oui.
Alors ici, nous sommes dans un petit musée qui n'est qu'un fragment finalement de ce qu'était le musée. En fait, alors corrigez-moi si ce n'est pas le cas, mais le musée de Roland-Garros existe depuis 2003,
oui.
C'est ça ? Mais
oui.
Il a fermé en avril 2016, le temps de la réalisation des travaux du nouveau Roland-Garros.
Oui.
Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu de ce musée ? Est-ce que c'était avant, ce que c'était aujourd'hui, et peut-être ce que ça deviendra après ?
Alors, effectivement, le musée a une belle histoire, puisqu'il est né en 2003, avec l'idée de raconter les histoires du tennis, depuis le jeu de paume jusqu'à nos jours, l'histoire du stade Roland-Garros et l'histoire du tournoi de Roland-Garros, avec bien sûr un peu de Bercy, au l'Open de Paris, Coupe Davis, Fed Cup, voilà. On avait une exposition permanente et une forte volonté de s'appuyer sur des expositions temporaires avec une base tennis pour ouvrir sur d'autres univers. C'est ainsi qu'on a eu des expositions consacrées aux photos de mouvements de Jacques-Henri Lartigue, tennis et bande dessinée, tennis et mode, bref, toujours une base de tennis pour s'ouvrir. En 2016, on a fermé le musée pour des questions de conservation, hein, essentiellement, puisqu'on a déménagé toutes les collections hors du stade.
Oui, c'est une question que j'allais vous poser, justement. Qu'est-ce qu'on fait de ces collections quand le musée est fermé ?
Alors, toutes les collections sont donc hors de Paris aujourd'hui, dans un espace qui répond parfaitement aux normes de conservation. Hein, nous y tenons fermement. Il reste cette exposition permanente hein, qui est actuellement en place. Je pense que nous allons prochainement la fermer également, puisque les travaux se rapprochent avec les cours 2 et 3. Donc là, il va falloir qu'on veille à ces éléments-là, cette partie des collections. Maintenant, nous réfléchissons d'ores et déjà au futur. À savoir l'horizon 2020-2021, une fois que le nouveau stade ouvrira ses portes. Nous faisons tout aujourd'hui pour qu'il y ait un nouveau musée, un espace intégralement dédié à l'histoire du stade et du tournoi, puisque le personnage principal de toute notre histoire, c'est le central, et tout ce qui a pu s'y passer, des mousquetaires jusqu'à Nadal. Donc nous sommes actuellement en phase de réflexion sur ce que sera le musée de 2020-2021 à Roland-Garros. C'est une belle aventure qui se prépare, une grande aventure, avec plein de surprises, sans doute quelques mauvaises, mais surtout de très bonnes, je pense.
Alors autour de nous, il y a plusieurs objets. Peut-être pouvez-vous nous parler de quelques objets phares en fait, de cette collection et l'importance qu'ils revêtent.
Oui.
C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du short de Wawrinka, c'est anecdotique, mais voilà, peut-être que vous pouvez évoquer quelques sujets.
La tenue de Wawrinka 2015, effectivement, c'était un très bon moment pour nous, un vrai buzz, hein, puisque cette année-là, voilà, ça s'est fait comme ça, on a travaillé sur une exposition tennis et mode. Et on voit Wawrinka qui joue incroyablement bien, qui arrive sur le central avec cette tenue absolument étonnante. Donc nous, voilà, on a l'habitude d'exposer les tenues des vainqueurs à l'issue du tournoi. Donc là, on se disait, mince, tennis et mode, cette tenue, ça le fait pas trop. Bon. Et puis Wawrinka va faire un truc incroyable, c'est qu'il gagne le tournoi. Et derrière, hein, pendant la conférence de presse avec la Coupe des Mousquetaires, il expose son short, son fameux short, et il dit... devant les journalistes. Bah, ce short, vous n'avez pas fini de le voir puisque je le donne au musée de Roland-Garros. Nous, derrière, on le récupère, on l'expose et on a eu un nombre de visiteurs incroyables parce que tout le monde venait voir la tenue de Wawrinka dans le musée. Donc, D'un côté, on n'était pas fan de sa tenue, mais de l'autre, merci Stan pour cette donation et ça fait un buzz incroyable.
Il a été vendu aux enchères, il me semble.
Ah non, 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 il est dans nos collections.
Okay,
et
j'avais
non,
entendu
non,
ça,
non,
mais...
non, pas.
Très bien.
Nous, on a la tenue de la finale.
Okay.
Croyez-moi, vu l'état, c'est bien celle-là. et elle est dans nos collections et non, on ne vendra pas.
Okay.
Autre objet que, emblématique, c'est l'hélice de l'aviateur Roland Garros, parce que Roland Garros n'était pas un champion de tennis, n'était pas un président de la fédération, non, c'était un pionnier de l'aviation, le héros de la Première Guerre mondiale. Et sur cette hélice qui lui a appartenu, il y a quelques mots qui disent « La victoire appartient au plus opiniâtre ». Cette phrase, cette maxime appartenait à l'aviateur Garros, hein, il l'a empruntée à Napoléon Ier, et cette phrase lui allait incroyablement bien. Et par un raccourci de l'histoire, aujourd'hui, cette phrase correspond tout à fait à Roland-Garros et à l'esprit Roland-Garros, puisque Roland-Garros, c'est un tournoi du Grand Chelem, donc 5-7 peuvent être nécessaires. C'est un tournoi difficile avec la terre battue, surface lente, les balles sont freinées, donc les échanges plus longs. Il faut donc plus de physique, plus de mental, plus de tactique pour gagner à Roland-Garros, donc oui. À Roland-Garros, la victoire appartient aussi au plus opiniâtre. Donc pour moi, cet objet, il est assez incroyable puisqu'il fait un grand résumé de l'histoire qui va de l'aviateur jusqu'à nous.
Et il y a aussi, donc, en dehors du short de Wawrinka, pas mal de vêtements de toutes époques qui sont relatifs au tennis. Donc c'est intéressant de voir vraiment l'évolution du style vestimentaire.
Les liens vraiment sont très étroits entre Roland-Garros et la mode et on a voulu montrer, ne serait-ce qu'en deux tenues, hein, une tenue de Jean Borotra, hein, le mousquetaire, le basque bondissant, une tenue pantalon, gilet, une tenue blanche, parce que Jean Borotra, c'était un tennis amateur, un tennis fait d'élégance, un tennis à une époque où l'amateurisme domine et où le double mixte est fait pour rencontrer l'être aimé. On est dans cette ambiance-là. Et juste à côté de cette tenue de Borotra, une tenue de Rafael Nadal, sa victoire en 2006, une tenue tout en puissance, où le tennis est fait de professionnalisme maintenant, et que sur un court, on n'est pas là pour être élégant, mais on est là pour gagner, avant tout. Donc oui, ce petit résumé qui est important pour l'histoire du tennis, oui.
Et je vois aussi les coupes qui sont près de nous. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots.
Alors, le temps du tournoi, les trophées qui sont remis aux vainqueurs des simples et des mixtes et des doubles sont en présidentiel. Mais le reste de l'année, et on espère que ce sera le cas dans le futur musée, nous exposons les trophées de Roland-Garros, donc Coupe des Mousquetaires, Coupe Suzanne Lenglen, mais aussi les anciens trophées, parce que le vainqueur du simple messieurs n'a pas toujours soulevé la Coupe des Mousquetaires telle que nous la connaissons. Auparavant, en 1953 par exemple, jusqu'à la fin des années 70, le vainqueur soulève une petite coupe, la Coupe Pierre Gillou, avant que Philippe Châtrier, le président d'alors, décide de donner une autre dimension au trophée, à l'image du tournoi qui lui-même a pris une autre dimension. Et donc il va y avoir comme ça différentes tentatives pour arriver jusqu'à la Coupe des Mousquetaires que nous connaissons aujourd'hui.
Alors il me semble que justement les vainqueurs ne gardent pas la coupe, ils ont une petite réplique, c'est ça, qu'ils peuvent amener chez eux.
Exactement, non, là la coupe que Nadal, Djokovic ont soulevée dernièrement, effectivement ils la soulèvent sur le central, ils peuvent l'emmener dans Paris pour faire quelques photos devant des monuments parisiens, mais après la coupe revient à la fédération et elle reste dans le stade, elle reste au musée. L'objet magique est là, donc ça, tous nos visiteurs peuvent voir l'objet qui est là. Le vainqueur, lui, repart avec un modèle réduit de la coupe des Mousquetaires ou de la coupe Suzanne Lenglen. La coupe, elle est là et elle est unique. Oui.
Alors finalement, vraiment, ce musée, voilà, c'est l'histoire de Roland-Garros qui c'est tellement plus que simplement du sport, quelque part. C'est vraiment une histoire de longue date. Et c'est vraiment intéressant de voir tous ces objets ici. Peut-être pour vous nous parler d'un dernier objet que vous appréciez
Oui, vous disiez qu'on est au-delà du tennis. Suzanne Lenglen, par exemple, qui a donné son nom au deuxième plus grand court du stade. Suzanne Lenglen, c'est la première grande championne du tennis français, championne du monde à 15 ans, juste avant la Première Guerre mondiale. Et Suzanne Lenglen est l'exemple typique de la championne de tennis qui dépasse le monde du sport. Elle a tout gagné Et elle participe à l'histoire de l'émancipation féminine. Parce que Suzanne peut jouer contre des hommes et peut les battre, elle participe à cette idée que l'homme est l'égal de la femme. On est donc au-delà du tennis. De Suzanne Lenglen à Chris Evert, il n'y a qu'un pas. Et effectivement, pour citer un dernier objet dans le musée, nous avons la chance d'avoir un original signé Andy Warhol, qui est un portrait de la reine, un portrait de Chris Evert. Et c'est l'un de nos objets les plus forts dans nos collections, oui.
C'est vrai qu'il est très beau. Bon, pour finir, parlons un petit peu tennis. Est-ce que vous avez des pronostics pour cette année ou
Alors, je suis extrêmement mauvais dans l'exercice des pronostics. Il suffit que je supporte un joueur pour qu'il se fasse sortir. Mais je trouve que, effectivement, Nadal est un cran au-dessus.
Ça serait la décima cette année.
Ce serait la décima. Il rentrerait encore un peu plus dans l'histoire et dans la légende de Roland-Garros. Maintenant, Stan Wawrinka, dont on parlait tout à l'heure, joue très bien. Et il y a Dominic Thiem qui pourrait être une bonne surprise également. Oui, je ne voudrais pas leur porter la poisse, mais ces trois-là sont quand même très très forts actuellement.
C'est encore assez ouvert.
Oui, et côté dames... Voilà, j'avais misé sur Muguruza, mais c'est fini. On espère tous, hein, Kiki, bien sûr, on est tous avec elle. Maintenant, Simona Halep joue particulièrement bien. Ça pourrait être son année aussi. Donc, c'est très ouvert et tant mieux pour le sport.
Alors, merci beaucoup pour votre temps, Michael Guittard.
Merci à vous.
Je rappelle que le tournoi de Roland-Garros se tient jusqu'au 11 juin. Le musée de Roland-Garros, quant à lui, devrait rouvrir ses portes, comme vous dites, dans quelques années. Nous allons suivre cela avec attention. Et je vous invite à faire attention également aux affiches que vous croisez de Roland-Garros, par exemple dans le métro ou à l'extérieur, maintenant que vous savez l'histoire qu'il y a derrière. Parce que finalement, c'est vraiment une véritable œuvre d'art, comme vous l'avez pu nous l'expliquer. Alors, c'était Jeanne Béran dans Art Interview à Roland-Garros. Au revoir et à bientôt. Merci.
C'était Art Interview sur Art District. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission en vous souhaitant une bonne suite de nos programmes sur Art District.